chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans la série « Les femmes du roi soleil », dont j'ai emprunté le titre et les commentaires au merveilleux écrivain qui est Simone Berthière, je vous présente aujourd'hui Mademoiselle de Lavallière, cette jolie blonde qui commença sa carrière de favorite par celle de Chandelier. L'amitié très affectueuse qu'entretenait Henriette d'Angleterre, l'épouse de Monsieur, le frère du roi Louis XIV, avec ce dernier, commençait à faire jaser la cour et singulièrement la reine Marie-Thérèse. La rouée Olympe de Soissons imaginait mettre en avant une jeune personne, le fameux Chandelier, que Louis feindra de courtiser pour brouiller les cartes. Une parfaite inconnue, petite provinciale, fraîchement débarquée à Versailles, fera l'affaire. Dès la fin du premier mois de ce manège, c'est Madame qui servait de chaperon aux amours de Louise et du roi. Henriette était furieuse. Il fallut rien de moins qu'Armand de Guiche pour tenter de la consoler. Mais le bel Armand était déjà le favori de Monsieur, l'époux d'Henriette. Pendant ce temps, Louis XIV faisait un nouvel enfant à la reine et en même temps un autre à la Vallière. À 23 ans, le roi a le cœur tendre et Louise, timide jeune femme, était perdument amoureuse de lui. Il découvre avec délice la fraîcheur d'un amour vrai, simple et sincère, sans arrière-pensée. Louise de Lavallière se livre à lui, corps et âme. Il est conquis. Elle sera sa première maîtresse en titre.
Que l'on me pende. Si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse, de grâce et de beauté, tant de tendresse, tant de sérénité. Ma vie dépendra d'elle, je n'existerai que pour elle. Il faut que m'appartienne son amour. Je n'attendais plus rien et je désespérais. Je vivais tant mal que bien lorsqu'elle m'apparaît. Plus belle qu'un ange parmi nous descendu, je donnerais ma vie. Change, quitte à être pendu. Il me faut la revoir. Je ne veux pas mourir d'amour.
Simone Berthière l'affirme, le roi aime le secret. Il hésitera longtemps à tirer Louise de l'ombre et ne procédera qu'à pas compter par étapes successives. Elle ne figurera à ses côtés comme favorite officielle, mère d'enfants reconnus, qu'après la mort d'Anne d'Autriche. Mais elle est alors sur le point d'être supplantée. Le règne de la Vallière aura duré 6 ans. C'est déjà beaucoup, estiment les observateurs étrangers, car il n'est pas sûr qu'elle fût faite pour ce métier. Mais pour sa belle tourangelle, il va réinventer l'amour courtois. Elle avait 17 ans, était fort aimable. Les vers de La Fontaine et la grâce, plus belle encore que la beauté, semblaient avoir été faits pour elle. Elle était charmante, d'un charme inexprimable d'après la princesse palatine, naïve, candide et totalement désarmée, sans défense, devant l'amour ébloui qu'elle porte au roi. Il suffit qu'il la regarde pour qu'elle succombe avec délices. Le roi découvrit qu'elle aimait la chasse, savait manier le pistolet et les pieux, et qu'elle était une écuyère de grand talent. Je l'ai vu montant à cru un cheval barbe, dit un voyageur italien, Locatelli, sauter debout sur son dos pendant qu'il courait et se rasseoir à plusieurs reprises en s'aidant seulement d'un cordon de soie passé dans la bouche du cheval. Accompagné d'un tout petit groupe de fidèles, le roi allait parfois chasser dans les bois giboyeux de Versailles. Il l'y emmena. Le château bâti par Louis XIII, un pavillon de dimension modeste, offrait un nid d'amour idéal. Même lorsque le secret fut éventé, il continua de goûter ses escapades qui conservaient à leur idylle un parfum d'intimité. Elles sont à la racine de sa passion pour Versailles, dont il commença alors de faire aménager les jardins. Il y fera construire, pour s'isoler avec elle, la fameuse grotte de Tétis, féerique promenoir des amants, dont le miroitement des jeux d'eau de statues de rocailles enchanta la fontaine. Quand le soleil est là et qu'il a fait sa tâche, il descend chez Tétis et prend quelques relâches. Celle qu'il s'en va voir seule occupe son âme. Il songe au doux moment où, libre et sans témoin, il reverra l'objet qui dissipe ses soins. Thank you. Hélas, la solitude à deux n'est pas faite pour les rois, et l'union sacrée se fait vite contre un tel amour. Henriette, d'abord, qui tenait à conserver le cœur du roi, et prit la chose comme une double trahison, puisque la Vallière était de sa maison. Le roi osait préférer la suivante à la maîtresse intolérable. Il y avait tous les autres, les dévots, avec à leur tête Anne d'Autriche, les jalouses, les intrigants, les méchants, les nuisibles. Première fêlure. À bout, elle s'enfuit et trouve refuge déjà dans un couvent. Mais le roi, malgré ou à cause des pressions, s'attacha encore davantage. Il y eut d'autres intrigues de la cour, de fausses lettres en vraies confidences. La reine, enfin, bonne dernière, furent mises au courant de l'affaire. Et le roi, désormais soulagé, s'en fut de plus belle à ses amours. Sortant de l'ombre, la Vallière devenait favorite déclarée. Il était temps. Elle portait un enfant sur le point de naître et son royal amant fit un pas de plus pour l'imposer à la cour. Il en fit l'héroïne de l'île enchantée.
Thank you.
Le 5 mai 1664, débarquèrent à Versailles les 600 invités de marque conviés à une extraordinaire fête baroque. Une de ces fêtes dont Louis XIV explique à son fils dans ses mémoires la finalité toute politique. Elles sont la traduction visuelle, la mise en scène éblouissante de la puissance royale. En l'occurrence, il s'agit aussi de faire oublier une autre fête qui a marqué les esprits, celle qu'a donnée à Vaux le surintendant Fouquet peu avant son arrestation. Ce n'est donc pas seulement pour la Vallière, comme on le dit parfois, que le roi conçoit les plaisirs de l'île enchantée. La fête est d'ailleurs officiellement dédiée aux deux reines, Henriette d'Angleterre et Marie-Thérèse. Mais elle est l'occasion pour Louise de faire à la cour une réapparition très remarquée. Et comme on sait Versailles associée à ses amours, c'est vers elle que se tournent beaucoup de regards. Rien n'était encore changé au petit château de Louis XIII, mais un travail titanesque avait été commencé dans le parc redessiné par le nôtre. Terrasses, complexe réseau d'allées, parterres, bosquets, bassins et pièces d'eau offrent un décor naturel, si l'on ose employer ce mot à propos d'un jardin si savamment élaboré, pour une suite de spectacles qui va durer une semaine. Le célèbre décorateur et machiniste de théâtre, Carlo Vigarani, a mis au point toute une architecture de bois et de carton mobile qui s'articule sur le cadre fixe offert par l'eau et les arbres. Un fil solide, emprunté au Roland furieux de l'Arioste, reliait entre eux les différents éléments du spectacle. On était transporté dans les jardins enchantés, où la magicienne Alcine retient prisonnier le preux Roger. Réalité et illusion se confondaient pour les personnages comme elles se mêlaient pour les spectateurs dans une fantasmagorie foisonnante. Le roi, en personne, empanaché de plumes, rutilant dans sa cuirasse étincelante d'or et de diamants, mène la parade initiale. Participe aux compétitions, courses de têtes et de bagues, où s'affrontent sous les yeux des dames les plus beaux seigneurs de la cour, dans la plus pure tradition chevaleresque. Le second jour, sur une île qui semble surgir du grand bassin dit Rondeau, la troupe de Molière joue la princesse des Lides, entremêlée et suivie d'épisodes dansés sur une musique de Lully. Le palais d'Alcine s'effondre dans le fracas du feu d'artifice final. Le lendemain, Molière encore, mais cette fois, c'est une comédie incongrue, Tartuffe, qui au lieu de chanter l'amour dénonce la bigoterie hypocrite, un coup d'audace que ne digéreront pas la reine-mère et ses amis dévots. Les fêtes se prolongèrent jusqu'au 13 mai, faisant alterner diverses joutes, une représentation des fâcheux et une autre du mariage forcé, une promenade à la ménagerie, une grande loterie où l'on gagnait à tous les coups des bijoux. Les billets avaient été soigneusement répartis à l'avance selon l'ordre hiérarchique. À la reine, échut le plus gros lot, qui valait 500 pistoles, tandis que Louise partageait avec la femme de son frère un très modeste cadeau. La princesse des Lides lui rendait un hommage indirect, mais très transparent. Je dirais que l'amour sied bien à vos pareils, que ce tribut qu'on rend aux traits d'un beau visage, de la beauté d'une âme, est un clair témoignage, et qu'il est malaisé que sans être amoureux, un jeune prince soit, et grand, et généreux. Car vivre sans aimer n'est pas proprement vivre, était-il dit un peu plus loin. Cette allusion ne visait évidemment pas la reine Marie-Thérèse. La dédicataire secrète des fêtes de l'île enchantée était bien, dans l'esprit de tous, Louise de la Vallière. Thank you. La suite de l'histoire sera plus triste. Louise n'avait pas cherché cette promotion. Elle se contentait d'aimer le roi sans ambition ni vue, comme on disait alors. Elle aurait voulu vivre près de lui dans une ombre relative, mais l'inévitable publicité faite autour de leur liaison et les oppositions qu'elle suscitait les avaient condamnés soit à la rupture, soit à la fuite en avant. Louis mit son point d'honneur à triompher. Imposer Louise, c'était aussi une façon de s'imposer lui-même, face à une mère qu'il aimait et respectait, mais dont le magistère moral lui pesait. L'amour se nourrit d'obstacles, c'est bien connu. Quand il n'eut plus à lutter pour la faire admettre à la cour, elle ne tarda pas à l'ennuyer. Elle n'était pas faite pour la pleine lumière, pour les mondanités, les jeux et les bavardages, les intrigues et les manèges de la coquetterie. Elle n'avait pas su se servir des avantages et du crédit que lui procurait l'amour du roi. Elle ne songeait qu'à être aimée de lui et à l'aimer, dit Madame de Lafayette. Elle était terriblement seule et très vulnérable, parce que totalement dépourvue de malice et de méchanceté. Autour d'elle, on ne songe plus qu'à la détrôner. Pour Louis XIV, c'est la fin de sa jeunesse et des élans du cœur. Il restait une part de fraîcheur dans l'amour qu'il portait à Louise, et il a goûté avec elle le bonheur rare d'être aimé uniquement pour lui-même. Ce sont des sentiments qu'il ne retrouvera plus jamais. Pour Louise de Lavallière, qui venait d'avoir 23 ans, c'était la fin du rêve. Elle avait vécu 6 années auprès de son roi. Marie-France Guimard-Roche a été très heureuse de vous retrouver à Versailles et reviendra avec vous pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée dans les studios d'Urocast de Radio Grand Ciel par Bernard Maragonis et Émilie Glory.